D'accord, donc bonjour Nicolas Le Chaupier.
Bonjour.
Merci pour cette interview. Donc la première question que je voulais vous poser portait sur donc, le principe de la démocratie en fait. Donc qui est, on suppose tous les citoyens également capables de décider du bien commun. Donc je reprends un peu une définition romancière ici. Les experts, enfin les chercheurs sont par ailleurs définis par leur capacité plus grande en fait à prendre, enfin en tout cas à exprimer leur avis. Donc, est-ce qu'on n'a pas une contradiction ici entre les citoyens qui sont supposés tous égaux et des gens qui ont un avis qui est supérieur sur certaines questions?
Déjà, je ne suis pas sûr que les scientifiques soient les mieux placés pour communiquer sur leur avis ou donner leur avis. Il y a des enjeux de communication scientifique, de partage des savoirs qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui savent plein de choses, mais qui ne savent pas le partager. Donc il y a un travail à faire et c'est pas aujourd'hui dans les fonctions des chercheurs très mal reconnu le travail de médiation, le travail de partage des savoirs, et ça devrait l'être beaucoup plus. Donc c'est une première réponse un peu latérale, et je crois que le principe de la démocratie s'oppose pas au principe d'une organisation dans laquelle ceux qui savent sont plus écoutés que ceux qui ignorent, puisque en fait on peut quand même distinguer entre l'établissement des faits, c'est-à-dire le débat sur ce qui est, qu'est-ce qui se passe dans le monde, comment ça marche, quelles sont les causes, quels sont comment et le pourquoi, etc. Ces questions, on va dire, de faits. Et puis, les opinions et les décisions qui peuvent être prises à propos de ces phénomènes. Autrement dit, je ne pense pas qu'on puisse vraiment opposer d'un côté, plutôt dire que le savoir devrait donner plus de pouvoir et donc s'opposer au principe démocratique. Il y a des dispositifs à inventer pour que les savoirs puissent nourrir le plus possible le débat démocratique et surtout lutter contre l'idée d'une aristocratie où les meilleurs seraient ceux qui savent plus.
Alors, je voulais juste revenir sur l'exemple de Fukushima et du médiateur que vous avez donné pendant la conférence. Croyez-vous que dans des situations comme celle-là, il faut dépolitiser le débat pour justement laisser la place aux experts, du coup, et entendre plus la voix de l'expertise que la voix du politique?
Je crois qu'il faut des experts pour établir la dangerosité du médiator. Il faut des experts pour mesurer la radioactivité. Personne ne discute ça. Dépolitiser le débat, non, justement. Il faut politiser. La question des conflits d'intérêts dans l'expertise, c'est une question politique, alors qu'il est aujourd'hui... fait la une de l'actualité, et c'est bien, mais depuis combien de temps des lanceurs d'alerte dénoncent des collusions dans l'expertise, et l'expertise qui conduit à des décisions qui ont une importance sociale, des décisions de mettre sur le marché un médicament ou de mettre en route une centrale ou autre. Et c'est, bon, en fait, les conflits d'intérêts contreviennent à deux principes, celui d'objectivité. Hein, un expert qui a un conflit d'intérêts, il est en risque de ne plus faire son travail d'expert, justement, le travail de quelqu'un qui sait. Son savoir est masqué par son intérêt, ou son intérêt prend le pas sur son savoir. Et le deuxième problème que ça pose, c'est un problème plus politique, et justement c'est pour ça qu'il ne faut pas dépolitiser ces débats, un problème de distribution de l'expertise, distribution du pouvoir. J'ai pas de solution miracle pour le système de mise sur le marché des médicaments, mais je crois que l'expertise alternative, la diversité et la pluralité d'expertise permettrait de garantir probablement un peu mieux que le système actuel l'indépendance et on va dire la fiabilité des décisions qui seraient prises. Et donc c'est un problème d'organisation, c'est-à-dire il ne faut pas que le pouvoir qui découle du fait d'avoir une expertise sur un sujet soit concentré entre les mains justement de très peu de personnes qui sont en même temps, on va dire, soumis à des intérêts ou pris dans des conflits d'intérêts. Donc ça, la question des conflits d'intérêts, c'est une question épistémologique, hein, c'est-à-dire il s'agit de savoir comment garantir la validité des savoirs, mais aussi une question politique sur l'organisation de l'expertise aujourd'hui dans une démocratie.
D'accord, donc ça répond un peu à la question suivante sur le discrédit qui pouvait être jeté sur les scientifiques du fait, par exemple, de Fukushima, puisque bon, ils ont été clairement pris dans pas des conflits d'intérêts économiques pour le coup, mais politiques plutôt. C'est plutôt une question sur la définition des experts, c'est-à-dire que vous, enfin pendant la conférence notamment, vous faisiez beaucoup allusion finalement aux chercheurs publics.
Ouais.
Pourtant, il y a beaucoup d'experts qui sont aussi soit des chercheurs privés, soit même pas des chercheurs forcément, mais des gens qui ont été impliqués dans, par exemple, une ONG, donc qui vont être experts de ça. Ou... D'une part, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on peut parler d'experts dans ces cas-là? D'autre part, est-ce que les chercheurs publics, en rentrant dans un débat comme ça, ne perdent pas une partie de l'indépendance qui est garantie par leur statut du seul fait qu'en fait, qui sont pas utilisés, mais mis à profit par les hommes politiques pour traiter de certaines questions? Il cesse d'être dans une sphère distincte.
Alors sur la définition d'expertise, il faudrait retravailler un petit peu ça. Je pense que l'expertise découle d'un savoir, mais aussi de l'expérience. Probablement que l'étymologie confirmerait cette hypothèse. Et donc, en l'occurrence, on peut avoir une expertise qui provient de l'expérience. Et donc, on ne peut pas réduire l'expert au diplômé ou à celui qui exerce telle ou telle profession. Mais il y a une vraie question de savoir comment articuler des expertises qui se réclament de points de vue différents sur le même objet. L'expertise du médecin qui voit quelques patients et qui sent qu'il y a un problème et qui, en discutant avec ses collègues, repère quelque chose qui ne va pas, et puis l'expertise du pharmaco-épidémiologiste qui prend les bases de données de l'assurance maladie et qui va éplucher assez systématiquement des millions de données pour essayer de trouver des liens de causalité entre la prescription d'un médicament et la survenue d'un accident. Maintenant, votre deuxième question sur les chercheurs. Comme vous l'avez compris, je ne suis pas un défenseur de l'indépendance des chercheurs, mais au contraire de leur inscription dans le débat politique, le débat social. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux effets de pouvoir que ça peut générer. Et ça ne veut pas dire non plus que les chercheurs doivent abandonner, évidemment, tout ce qui fait la valeur de leur point de vue, qui est la compétence et l'expérience à propos de certains domaines de spécialisation ou certains faits. Donc, ce qu'il faut défendre, c'est l'objectivité, que j'ai appelée l'impartialité dans les jugements à propos du monde. Mais donc cette impartialité n'implique pas que les chercheurs devraient rester indifférents au débat social. Aujourd'hui, il y a justement un problème qui est celui des lanceurs d'alerte. Il y a un certain nombre de chercheurs qui ont défendu, à tort ou à raison, c'est pas la question, en fait, des théories, on va dire, hétérodoxes, qui les ont défendus pas simplement sur le plan théorique, mais aussi sur, on va dire, avec des données expérimentales, des données empiriques, et qui ont été mises à l'écart de leur institution parce que leur point de vue divergeait avec les intérêts de l'institution. Là, il y a eu des scandales très très importants au Canada, et ils sont aussi courants en France, de personnes qui ont été mises au placard, de chercheurs qui ont été mises au placard parce que justement ils faisaient usage de leurs paroles et de leurs compétences pour remettre en cause un fait établi consensuel. Et donc aujourd'hui, il y a une proposition qui est faite notamment par la Fondation Sciences Citoyennes de faire une loi, et aux États-Unis ils sont en train de faire cette loi-là, pour protéger les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire protéger ceux qui, parmi les chercheurs, se trouvent à un moment donné à défendre une idée hétérodoxe qui ne plaît pas et qui, on va dire, qui est contraire aux intérêts dominants. Et ces gens-là devraient être protégés, ne serait-ce que parce qu'il faut que leurs propositions puissent être examinées critiquement par l'ensemble de la communauté scientifique, et que leurs hypothèses ne soient pas tuées dans l'œuf, simplement parce qu'elles risquent de déplaire aux autorités. Et donc le scandale du Mediator aujourd'hui, c'est aussi un problème lié aux lanceurs d'alerte, c'est-à-dire quel est le statut de ces chercheurs, ou de ces experts, ou de ces gens de terrain qui signalent des problèmes, et il y a un enjeu politique à savoir comment est-ce que la société pourrait leur garantir la liberté de défendre ces idées contraires aux intérêts dominants.
Bien, mais je crois qu'on a à peu près fait le tour des questions qu'on voulait vous poser. On vous remercie pour votre temps. Et puis...